Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
Bienvenue dans le rendez-vous radiophonique numéro 1 le vendredi soir du marché de Québec. Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Une voix qui a parlé un petit peu trop fort par-dessus de la musique hier. C'était les sondages numéristes et on veut vous remercier, vous, les auditeurs qui nous ont suivis dans tous les changements de rendez-vous que Radio X-Files a eu dans les dernières saisons. On a eu une saison avec des émissions quasi quotidiennes. On a eu un rendez-vous le vendredi et maintenant le vendredi soir à 19h30. Tout ça n'est pas possible si vous n'êtes pas là. Et si le cerveau de l'affaire n'est pas là, M. Christian Page, que je félicite en même temps pour Et Radio X-Files et Suspect X, un beau projet qui me tient à cœur les lundis, podcast réservé au True Crime, Christian.
Ben merci Camille, mais il faut quand même savoir que c'est un travail d'équipe, donc on doit en bénéficier tous de la même façon. Hein. Alors merci, j'accepte avec plaisir tes félicitations, mais je te les retourne également parce que je trouve que tu fais un excellent travail derrière ce micro. Alors il faut apprécier la qualité de tous nos collègues, puis j'apprécie la tienne.
C'est réciproque et je te remercie à chaque fois de me réitérer ta confiance. Et on a embarqué avec nous, Daniel, pour Suspect
X. Bien sûr, pour Suspect X.
Et j'en ai profité pour saluer tous les psychopathes à l'écoute le lundi soir pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau projet. Moi, c'est un terrain de jeu, donc je suis très contente. Je voulais faire la parenthèse d'entrée de jeu, comme tu vois, avec ce qui me reste de voix cette semaine, Christian.
Oui.
On va faire cette émission-là. Ça va être un petit peu plus difficile, mais
là,
je l'ai préservé.
Tu dois te dire si la fin de semaine peut arriver.
C'est ça. Après ça, je tombe sous silence pour deux jours et que ça va bien aller. Et j'en profite aussi pour te féliciter. Tu avais les sondages de Montréal également. Tu as des participations dans les radios de Montréal. Je te félicite pour ça aussi. Ceci étant dit, il nous reste encore du travail à faire. On continue de travailler pour vous. Et ce soir, on est dans une thématique des énigmes historiques. Maintenant que la parenthèse sondage est faite et qu'on s'est donné une petite tape dans le dos, tu avais une bande-annonce et je m'attends à ce que tu sois critique encore une fois sur cette série-là, mon cher Christian.
Absolument.
On vous fait entendre la bande-annonce d'une nouvelle série Netflix, en fait, qui est la deuxième saison de À l'aube de notre histoire, et on revient.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Graham Hancock. Depuis plus de 30 ans, je suis à la recherche d'une possible civilisation disparue à l'époque de la préhistoire. Les archéologues affirment que si cette civilisation existait, ils l'auraient déjà trouvée. Je ne suis absolument pas d'accord. Je poursuis donc mes recherches dans des parties du monde souvent délaissées des historiens qui s'intéressent à l'origine de l'humanité.
La plus vieille origine dont on parle aurait environ 13 200 ans.
En étudiant les vestiges les plus intrigants de la planète,
la numérologie, les mathématiques, l'astronomie,
c'est sûrement une forme de technologie qui a disparu.
Et grâce à de nouvelles découvertes,
c'est impossible. C'est impossible!
Gamin, je me disais toujours que la chronologie était mauvaise.
Le tout à travers un tout nouveau paradigme. Le secret de cette civilisation ancienne de l'ère glaciaire pourrait-il reposer ici, en Amérique?
À l'aube de notre histoire, et que fait Keanu Reeves dans la distribution? Première question.
Je me suis posé la même question que toi. Hein?
Ah oui?
En fait, c'est une série en 6 épisodes, et je pense qu'il apparaît dans 3 épisodes, puis il apparaît comme une espèce j'allais dire un épouvantail, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais il fait rien. Tu sais, il est là, debout, là, puis là, l'autre... Graham Hancock lui parle, puis lui, il dit « Ah oui, mais tu sais, c'est vraiment une participation caméo, là. Il n'est pas là pendant une demi-heure, là. Il est là pendant, comme je l'ai mentionné, sur 3 épisodes. Il apparaît peut-être 6 ou 7 minutes dans chacun de ces épisodes-là, et ce n'est à peu près pour rien d'autre que encaisser ce que l'autre, ce que Graham Hancock lui dit.
Okay.
Il fait quelques réflexions qui sont complètement déjantées, dans la mesure où, visiblement, Ken O'Reeves devrait se limité à faire du cinéma. Il n'y a pas de problème, c'est un très bon acteur. Il a joué dans des films qui sont légendaires. On pense à Matrix, qui a changé l'histoire du cinéma.
Les John Wick aussi.
Oui, les John Wick aussi, un très bon film d'action. C'est un individu qui, sur le plan humain, tout ce qu'on entend de lui, c'est toujours dithyrambique. Hein. Il va s'arrêter pour parler avec des sans-abri, etc. C'est un grand homme, t'sais, sur le plan humain. Mais visiblement, Ken O'Reeves n'a rien à faire dans une série comme celle-là. Il n'a visiblement aucune formation en histoire ou en archéologie. Il dit strictement rien. Puis les trois ou quatre phrases qu'il énonce, ben, c'est un peu absurde. T'sais.
C'est un vide.
Oui, c'est absolument vide. Et ça ne sert finalement qu'à, comment je pourrais dire, à mettre la table à son interlocuteur ou à confirmer ce que son interlocuteur dit, comme si on avait besoin d'une confirmation de ce genre d'ineptie. En tout cas, c'est un peu pathétique. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens, c'est sûr que Ken O'Reeves, c'est un nom qui attire, il y a des millions d'admirateurs. Et ce qui est triste un peu, c'est de le voir utiliser, bon, je pense que là, c'est un mauvais casting, là. Je pense que son agent aurait dû lui dire, va te remettre de tes blessures de John Wick.
Okay.
Va patcher tes blessures de John Wick, mais fais pas ça. Et bon, malheureusement, il est là, et ça va drainer plein de fans, probablement, de Ken O'Reeves, qui veulent le voir à toutes les sauces, qui vont regarder cette série-là, et vont peut-être un peu adhérer à ce qui est mentionné dans cette série, qui est tout à fait pathétique. Donc voilà, ça c'est ce que fait Ken O'Reeves, et visiblement tout ça a été tourné en une seule fois, puisque tous les plans où on voit Ken O'Reeves, c'est toujours le même plan, là. Il est comme un peu sur une espèce de petite colline avec un arbre, là. Tous les plans qu'on voit de lui avec Graham Hancock, c'est toujours le même plan, donc ça a été tourné en une seule fois, et puis probablement qu'il a parlé en réalité pendant 15 minutes, et puis on a séparé ces 3 interventions okay. dans 3 épisodes. Donc, Ken O'Reeves apparaît essentiellement, comme je l'ai mentionné, un peu rôle caméo, et probablement c'est simplement parce qu'on souhaitait peut-être avoir le nom d'une grosse vedette au générique, mais il n'ajoute rien, n'apporte rien à la série elle-même.
On l'a croisé par hasard dans le bois. Voilà, ça marche.
Oui, absolument.
OK.
Donc, j'ai regardé la série, je l'ai mentionné, hein, tu l'as mentionné, le titre de la série, c'est « À l'aube de notre histoire », c'est « Ancient Apocalypse », version française. On en avait parlé ensemble il y a un an et demi, lorsque la première saison était sortie, ça avait soulevé un véritable tollé dans le milieu des historiens et des archéologues par le nombre d'inepties qui étaient mentionnées à la minute près. Là, tu sais, là, c'est épouvantable. C'est même difficile de prendre des notes à chaque épisode et de noter toutes les faussetés, les demi-mensonges qui sont mentionnés, là, tellement ça se multiplie. Là. C'est vraiment une machine. Là,
et on en
là.
A fait une deuxième, c'est ça qui est impressionnant.
Et même à ce moment-là, moi, je me rappelle très bien, il y a un an et demi, quand la première saison est sortie, ça avait soulevé un tel tollé que même des associations d'archéologues et d'historiens qui avaient adressé à Netflix une espèce de « réveillez-vous ». Tu sais, tu comprends, ça n'a pas de bon sens de multiplier des mensonges de cette manière-là. Il y a quand même une responsabilité. Souvent, on a tendance à confondre responsabilité et liberté d'expression.
Oui.
Tu comprends? Et en réalité, quand tu, comme nous, on le fait, je peux faire des erreurs, tu peux faire des erreurs. Tu sais, l'erreur est humaine, mais on a quand même la responsabilité de dire, bon, on est derrière un micro, on va essayer de dire le moins de bêtises possible.
En fait, on a le devoir de corriger, de rectifier dès qu'on est conscient de l'erreur.
Absolument, c'est notre responsabilité, et cette responsabilité-là, hein, il y a dans Spider-Man, à un moment donné, hein, dans le volet numéro 1, ouais, ben, quand Ben lui dit hein, « le grand pouvoir demande de grandes responsabilités ben, », c'est un peu la même chose. Quand on a un micro, on a la chance, parce que c'est une chance qu'on a, de s'adresser à des centaines, des milliers de personnes, ben, on a aussi la responsabilité d'essayer de donner une information qui est qualitative et qui est objective aussi. Bon. Et malheureusement, parce que j'ai eu à plusieurs reprises des débats, et là, je ne veux pas glisser là-dedans, si tu me connais avec mes montées de lait.
Mais
tu sais, à quelques reprises, j'ai eu sur mes propres médias sociaux, j'ai eu des échanges avec des gens à propos de Joe Rogan. Hein. Joe Rogan, qui est un célèbre podcasteur américain, et qui est, et en quelques années, il est passé de commentateur sportif à l'un. À une force médiatique, hein, faut pas se le cacher.
C'est
Joe
vrai.
Rogan, tu sais, il a même reçu Trump durant la période d'élection, tout ça. Il reçoit des grands noms. C'est devenu presque un incontournable. D'ailleurs, certains ont reproché à Kamala Harris de ne pas avoir été à Joe Rogan. Tu sais, on dit, hey, Trump est allé à Joe Rogan, mais pas toi, tu sais. Joe Rogan, faut-il le rappeler, hein, c'est un ancien commentateur sportif, là. Il faisait il commentait les matchs de lutte.
Oui.
Et il est devenu une radio importante. Cela étant dit, il fait en tant qu'entertainer, c'est bien, mais à un moment donné, la force qu'il a en tant que podcasteur, donc en tant que micro, là, et c'est là qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, oh, attends une minute, là, parce que, bon, je l'ai vu recevoir des invités, Neil deGrasse Tyson et d'autres gens comme ça, des gens qui ont un discours tout à fait raisonnable et raisonné. Mais à un moment donné aussi, il reçoit des gens qui disent des inepties et des bêtises et il les laisse aller. Et là, c'est là qu'on doit intervenir. Tu sais, c'est un peu, à un moment donné, quand je discutais avec des gens, je dis, c'est un peu la même chose. Tu sais, puis là, quand on pose la question à Joe Rogan, il se défend ou se dédouane en disant, ben, je laisse la parole à mes invités. Oh, attends une minute, là. On n'est pas entre deux podcasteurs avec 50 auditeurs qui écoutent. Là.
En plus,
ouais. c'est une émission qui draine des millions d'auditeurs. Je donnais comme exemple, imaginez-vous, l'émission la plus populaire au Québec, là, c'est Tout le monde en parle.
Mm-hmm.
Bon. Imaginez-vous là, qu'à un moment donné, Tout le monde en parle, la liberté d'expression peut recevoir n'importe qui et n'importe qui a le droit à son discours. Parfait. Mais imaginons un instant là, qu'à l'émission Tout le monde en parle, on reçoit un néo-nazi qui, pendant 45 minutes, va nous déblatérer sur comment il était grand, il était beau, Adolf Hitler, et que Guillaume Lepage n'intervient à aucun moment. Il le laisse sortir ses âneries, et quand on va demander des comptes à Guillaume, il va répondre « Ben, je voulais laisser parler mon invité. » Non, ça, c'est inacceptable. Et c'est exactement ce que fait Joe Rogan. Il reçoit des invités, certains ont des discours tout à fait raisonnés, raisonnables. Il parle, Joe Rogan les laisse parler. Je pense notamment, bon, je cite souvent cet exemple-là parce que je sais qu'il a reçu des invités de calibre, comme Neil deGrasse Tyson. Donc, il le laisse parler. Neil deGrasse Tyson, pour les gens qui l'ignorent, c'est un astronome, astrophysicien. C'est un peu le remplaçant de l'irremplaçable, je dis remplaçant, mais l'irremplaçable Carl Sagan, qui nous a quittés il y a de nombreuses années maintenant.
Okay.
Et Neil deGrasse Tyson a d'ailleurs animé une série, Cosmos, qui était un peu la reprise de la série célèbre Cosmos qu'avait fait Carl Sagan à la fin des années 70, début des années 80. Cela étant dit, donc tu reçois un individu comme celui-là, tu le laisses parler, tu bois ses paroles. Tu sais, c'est un type qui a une connaissance encyclopédique. Mais quand tu reçois un individu, et notamment dans mon domaine, moi qui m'intéresse, le domaine des ovnis, tu reçois des gens qui là, sont là puis nous tiennent des discours là, tout à fait fantaisistes, farfelus, conspirationnistes. Et lui est là puis il répond « Ah oui, ah oui, ah oui ». Là, il y a un malaise, là. Et ce malaise-là, tu ne peux pas te dédouaner en disant simplement « j'ai laissé la parole à mon invité ». Non, il y a une responsabilité derrière ça. Cela étant dit, c'est un peu ce qui s'est passé avec la première saison de avec Graham Hancock à l'aube de notre histoire. Lorsque Netflix avait fait cette série, de nombreux historiens, des archéologues ont écrit, ont fait une espèce de lettre commune qu'ils ont adressée à Netflix en disant « ça n'a pas de bon sens, un truc comme celui-là ». Et la réponse de Netflix, c'était, bon, on a évoqué la liberté d'expression, la popularité. C'est vrai que cette émission-là s'est vite classée dans le top 10 des émissions, mais populaire ne veut pas dire que c'est de bon goût. Hein? Je rappelle souvent aux gens qu'il y a 2000 ans, on faisait manger des chrétiens dans l'arène à Rome, puis le Colisée était plein trois semaines. Ça ne veut pas dire que c'était de bon goût pour autant. Et cela étant dit, on a vite découvert que l'un des responsables de la production et du contenu chez Netflix, ben, c'était le fils de Graham Hancock. Ah. Donc, dans un autre langue, on appelle ça du népotisme. C'est donc, finalement, on comprend qu'il n'y a aucun filtre qui est mis parce que, bon, Graham Hancock a ses entrées à Netflix. Donc, merci, bonsoir. Quoi qu'en disent les archéologues et les historiens, c'est un peu un combat perdu d'avance. Donc, à cette nouvelle série, à l'aube de notre histoire, sous-titrée « Les Amériques », c'est une série en 6 épisodes. Pourquoi j'ai choisi de t'en parler ce soir? Ben parce que, un, c'est notre thématique histoire, et deux, parce que c'est notre dernière émission avant la reprise de janvier. Donc, je me suis dit que durant les fêtes, probablement des gens vont aller un peu zapper sur différentes plateformes et ils vont peut-être tomber sur cette série. Donc, mieux vaut être prévenu d'avance. Hein. Tu connais l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ».
Bien sûr.
Donc, je l'ai regardé. Ce fut pénible pour moi parce que, bon... Moi-même, j'ai fait des séries un peu à caractère historique avec À la recherche des reliques saintes. J'ai une formation en histoire. Je le dis tout de suite, pas une formation diplômée. Hein. Quand on est à l'université, il faut bien prendre des cours pour prendre des crédits.
Oui!
Donc, j'avais des cours en histoire. Donc, j'ai un minimum de culture.
T'es-tu concentré sur une période en particulier?
Oui, moi, c'était le Mésoamérique qui m'intéressait.
Okay.
Et ça tombait bien parce que cette série qualifiée de « Les Amériques », tu comprends qu'une grande partie est consacrée au Mésoamérique. Quand on parle du Mésoamérique, on parle des cultures autochtones d'Amérique centrale, principalement. Oui. Mésoamérique, c'est l'Amérique centrale. Donc, on parle aztèque, toltèque, maya. Et lorsque l'on parle... Et ensuite, ben, tu as les cultures dites précolombiennes qu'on retrouve en Amérique du Sud, comme les Incas, Nazca, Paracas et autres.
Okay.
Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le Mésoamérique, mais bien sûr, j'ai fait un petit saut de côté pour aller vers l'Amérique du Sud aussi, parce que toutes ces cultures-là m'intéressaient beaucoup. Donc, quand j'ai vu arriver cette série, Les Amériques, je me suis dit, tiens, ça tombe un peu, comme on dit, dans ma table. Donc, j'ai regardé ça, j'ai regardé tous les épisodes. J'ai pris des notes pour chacun des épisodes. Je te rassure, lorsqu'on arrive vers les derniers épisodes, je vais être plus bref parce que c'est un peu trop la répétition des mêmes inepties qui est dite. Là, là. Donc, qu'est-ce qu'on peut là, très rapidement, là, dès le premier épisode, ben, évidemment, ce Graham Hancock se présente. Qui est-il d'abord? Hein? On peut se poser cette question. Qui est ce Graham Hancock? Ben, Graham Hancock, c'est un journaliste, un véritable journaliste avec une formation académique en journalisme, mais il a délaissé le journalisme dans la mesure où il a décidé de se consacrer à son idéologie ou à ses hypothèses. Son hypothèse, elle est une variante de ce que l'on retrouve dans nos ancêtres, les extraterrestres. Toutes les grandes civilisations qui ne autres que blanches et de culture occidentale, donc toutes les autres cultures ont tous été un peu trop imbéciles pour pouvoir faire des constructions ou développer des civilisations. Donc, ils ont forcément eu l'aide des extraterrestres pour réaliser leurs merveilles architecturales.
Ouais.
Dans le cas de Graham Hancock, on est exactement dans les mêmes eaux avec une variante. Lui, il ne fait pas intervenir les extraterrestres. Son hypothèse est que quelque part, à la fin de la dernière période glaciaire, on est grosso modo entre 10 000 et 13 000 ans. Là. C'était la fin de la période glaciaire. Et là, c'était l'ère de l'ère glaciaire. Et à ce moment-là, lui, son hypothèse, c'est qu'il y avait une super civilisation qui existait à ce moment-là. Une civilisation, il ne la décrit pas en termes ethniques. Hein, il ne nous dit pas qu'ils étaient jaunes, noirs, bleus ou verts. Là. Il ne nous les décrit pas. Mais il parle de cette super civilisation. Et si on sait lire entre les lignes, ben c'est visiblement une super civilisation dans le style des Atlantes. Là. Tu sais, tu vois le genre un
ouais.
peu civilisation mystérieuse, disparue. Il ne dit pas que cette civilisation était blanche ou noire, mais on comprend qu'il est fortement imprimé de cette culture atlantide. Et l'Atlantide, faut-il le rappeler, c'est une civilisation blanche et occidentale. Hein, je veux dire, même quand on regarde les illustrations, même un peu fantaisistes de l'Atlantide, ben on imagine toujours les Atlantes comme un peu comme des Grecs ou des Romains avec le toge puis le temple en pierre. Et même quand on voit des illustrations de l'Atlantide sous la mer, ben c'est souvent des statues style Poséidon qu'on
ouais.
voit entourées de petits poissons.
Bon, c'est vrai.
Donc on voit qu'on est dans l'univers du grec occidental. Et Graham Hancock ne va pas sur le plan ethnique, ne va pas aussi loin que ça, mais on le sent quand même à travers son discours. Donc il dit qu'il y avait cette super civilisation. Et qu'à la fin de l'ère glaciaire, cette super civilisation, plutôt que alors qu'elle vivait ses derniers instants, certains d'entre eux seraient partis à travers le monde pour initier les grandes civilisations, au savoir architectural, mathématique et tout le reste. Donc, c'est un peu son hypothèse. Sous la plume de Graham Hancock, les extraterrestres deviennent une super civilisation. Mais pour le reste, c'est à peu près le même discours. Toutes les civilisations étaient trop empotées pour faire quoi que ce soit d'eux-mêmes. Donc, forcément, il y a eu ce contact avec... ils ont été initiés par un savoir plus grand. Et là, il se met à faire des raccourcis qui sont tout à fait épouvantables. Et c'est ce qu'il avait fait, d'ailleurs, dans la première saison, qui avait choqué les historiens, c'est de trouver des parallèles ou trouver des raccourcis pour essayer de dire, ben voilà, ça doit être impliqué de ça. Il y a une expression qui dit, c'est pas parce que mon nez ressemble à celui de mon voisin que mon voisin est mon frère.
OK.
Tu vois, et c'est un peu ce jeu-là auquel se livre Graham Hancock. Donc, je vais mieux détailler les deux premiers épisodes, mais pour le reste, ça revient un peu, il y a quelques éléments forts pour les autres sur lesquels j'aimerais revenir, mais grosso modo, donc, la série, tout le long, il présente des trucs. Évidemment, dans son hypothèse, son maintien est toujours le même. Le monde scientifique a tort, hein, parce que ces grandes lignes, c'est le monde scientifique a tort, mais moi, j'ai raison. Donc, continuellement, là, on le sent, parce que ces hypothèses, tu comprends, sont considérées par farfelues par le monde académique. Donc, on le sent frustré. Et dès qu'il y en a l'occasion, c'est les historiens ont tort. Même dans la bande-annonce, hein, on le voit quand il dit « D'après les archéologues, si une super civilisation avait existé, on l'aurait trouvée. » Je ne suis pas d'accord. Bon, tu vois, dès le départ, là, je dois m'imposer. Et c'est un jeu qu'on retrouve facilement. Hein. Ces genres d'hypothèses un peu fantaisistes, c'est souvent des passerelles vers les théories du complot. Et on le retrouve, ce sentiment de théorie du complot. Hein. Il existe à l'échelle internationale depuis 200 ou 300 ans, depuis que la science existe, finalement, depuis que la science, disons, industrielle s'est mise en place. Il existe un espèce de complot de toute la communauté scientifique et archéologique pour nous raconter une histoire qui n'est pas la vraie histoire. Somme toute, si tu t'arrêtes 5 secondes puis tu penses à ça, tu te dis « mais maudit que ça n'a pas de bon sens ». Qu'est-ce que les historiens et les archéologues auraient à gagner à te dire qu'un tel a bâti? Tu sais,
à pas travailler en équipe découverte. Là.
Ouais, voilà. Mais quel serait l'intérêt pour les archéologues de te dire, par exemple, je ne sais pas moi, que Teotihuacan, par exemple, une ville qu'on trouve au Mexique, qui est une des dernières capitales de l'Empire aztèque, c'est-à-dire, Teotihuacan a été construit par les Mayas. Alors qu'en réalité, elle était construite par les Aztèques. Tu comprends? C'est quoi le... Ça sert à qui? Ça sert à quoi, ce genre de truc-là? Et qui plus est, on le voit même au quotidien, si on s'intéresse un peu à l'histoire, à l'archéologie, à la paléontologie, on voit très clairement au fil des ans que plusieurs grands paradigmes ont été changés parce que les archéologues ou les paléontologues sont arrivés avec de nouvelles informations. Moi, je me rappelle... Je suis plus vieux que toi, Camille. Mais moi, je me rappelle quand j'allais à l'école. Je vais te donner ce paradigme-là. Hein. Quand j'allais à l'école enfant, on nous disait que la civilisation humaine avait évolué d'une espèce à une autre, hein, ou d'une catégorie, je ne vais pas dire espèce, mais disons un groupe à une autre, une communauté à une autre. Il y avait eu Australopithèque qui avait évolué jusqu'à son successeur, Cro-Magnon. Puis là, ben, Australopithèque avait disparu pour laisser toute la place à Cro-Magnon. Puis Cro-Magnon avait évolué jusqu'à Néandertal.
Ouais.
Puis là, il avait disparu pour laisser toute la place à Néandertal. Puis Néandertal avait évolué jusqu'à Homo sapiens, nous. Et ensuite, il a laissé sa place pour que Homo sapiens soit là. On sait aujourd'hui que c'est pas vrai, ça. On a réécrit les livres d'histoire et tous les paléontologues, les anthropologues le savent. Cro-Magnon et Néandertal n'étaient pas nos ancêtres, ils étaient nos cousins. Il y a eu plusieurs branches d'humanité. Plusieurs humanités ont cohabité en même temps. Cro-Magnon et Néandertal, par exemple, non seulement cohabitaient en même temps, mais ils ont eu également des relations, là, des mixages entre les deux groupes. Et on retrouve, par exemple, beaucoup chez les populations européennes, dans l'ADN profond, là. ça apparaît pas dans ta face, là. Mais dans l'ADN profond, oui. on retrouve des gènes de Cro-Magnon. Hein. Donc, et même si les Néandertaliens avaient, à une époque, dominé l'Europe, hein, Néandertal vient d'une vallée, grosse, je crois que c'est en Allemagne, oui, la vallée de Néandertal, et ça vient de là. Hein. C'est là qu'on a trouvé les premiers ossements de Néandertal, d'où l'homme de Néandertal, et non pas l'homme du Néandertal, là, c'est de Néandertal, parce okay. que c'est une vallée. Donc, on a trouvé des hommes de Néandertal dans cette vallée d'Allemagne. Et c'était surtout Néandertal qui était en Europe. Mais quand on regarde la population d'Europe, on voit chez certains, dans certaines communautés, des fossiles, disons ça comme ça, des fossiles d'ADN de Cro-Magnon qui montrent bien qu'à un moment donné, il y a eu mixage entre Cro-Magnon et Néandertal. Mais Néandertal et Cro-Magnon qui ont disparu, là, grosso modo, il y a 35 000 ans, là, on ne se battra pas sur quelques années. Là.
Mais ces gens-là,
mais ces gens-là cohabitaient en même temps. Ils n'étaient pas nos ancêtres, ils étaient nos cousins. Tous les livres, tous les paléontologues et les anthropologues ont réécrit les livres d'histoire. On n'a pas maintenu ce mensonge-là. C'était une vérité de 1960, mais ce n'est pas une vérité de 2024. Puis on a changé ça. Donc, et l'archéologie, c'est pareil. La paléontologie, c'est pareil. Il y a des choses qu'on a crues à un moment donné dans l'histoire. Et quand les preuves sont venues contredire ça, bon, on a changé, on a réécrit les livres d'histoire. Les historiens et les archéologues, là, quoi qu'en dise Graham Hancock, là, ils n'en ont rien à cirer de réécrire les livres. C'est pas des imprimeurs, eux autres. Les livres, ils n'en ont rien à cirer. Jetez-les aux poubelles, brûlez-les, mais il est temps de passer à autre chose. Donc, c'est pas vrai que des archéologues et des historiens vont maintenir des mensonges parce qu'ils veulent pas réécrire les livres d'histoire. Ça, c'est d'une absurdité. Ça ne sert que les théories du complot. Qui plus est, depuis 200 ans, les historiens et les archéologues, c'est beaucoup de gens. Hein? Donc, si tu crois à ce mensonge-là qu'il y a une espèce de complot franc-maçonnique pour dissimuler la réalité de l'histoire, c'est de croire que depuis 200 ans, tous les historiens, tous les archéologues, tous les égyptologues travaillent de pair et aucun d'entre eux ne vend la mèche. Tu sais, c'est-à-dire Howard Carter, qui a trouvé le tombeau de Toutankhamon, savait que ça ne marchait pas l'histoire, mais il ne l'a pas dit. Puis, c'est d'une absurdité totale. Donc, Graham Hancock nous lance au départ. Il en veut visiblement cette communauté-là qui ne considère pas ses hypothèses avec sérieux. Mais en même temps, dans un discours complotiste, ça fonctionne bien parce que dans le discours complotiste, tu vas toujours retrouver la même règle, c'est la règle du David et Goliath. Hein, que ce soit pour les ovnis, que ce soit pour Graham Hancock ou n'importe quoi, le complotiste se présente toujours comme étant lui, le David, qui se bat contre Goliath. C'est la machine, c'est l'institution, c'est la version officielle. La version officielle, c'est Goliath. Donc, je me bats contre cette version officielle et tu te places un peu en victime. Donc, le pauvre Graham Hancock, qui est seul dans son grand combat. Donc, vite, il faut l'aider. C'est peut-être pour ça qu'arrive Canaries, hein, qui est un peu plus allé nous sortir ses pistolets à la John Wick. Tu sais. Bon, donc, il nous présente ça tout le long de la série. C'est continuellement de répéter. Il nous présente des trucs. Il nous dit, bon, voilà, une telle construction est faite comme ci, comme ça. Puis là, tout d'un coup, c'est « j'ai le sentiment que, d'après moi », tu comprends? Donc, là, à partir de là, tu sais, moi, c'est la porte... Le discours glisse vers des spéculations, mais le public ne retient pas ça. Tu comprends? Le public ne retient pas le début de « j'ai le sentiment ». Tu sais, lui, il regarde quelque chose, là, puis il dit, « ah, j'ai le sentiment que... les Mayas, quand ils ont construit cette structure-là, avaient eu l'information. Et là, il part dans son hypothèse. Les gens ne retiendront pas qu'il a débuté sa phrase avec « j'ai le sentiment » ou « d'après moi ». Ils ne retiendront pas ça. Ils vont retenir les 5 minutes qui suivent où il nous embobine avec une hypothèse complètement tirée par les cheveux. Ensuite de ça, à plusieurs reprises, il dit tout le temps... et ça, c'est également le jeu qui fait qu'on retrouve dans l'univers complotiste, c'est d'utiliser des pronoms impersonnels. Hein. Des scientifiques prétendent, les historiens affirment, nous savons maintenant que... Non, c'est pas de nous savons ou les scientifiques... Ils ont-tu des noms, ces gens-là? Qui a dit ça? Des scientifiques reconnaissent... OK, Il y a un scientifique qui a reconnu ça, toi. Ben, donne-moi donc son nom, j'aurais envie de se parler pour voir. Donc ça, il le multiplie là, tout au long de la série. Là. Des historiens, des archéologues, on dit ceci, on dit cela. Et beaucoup là, on sait maintenant, on croit maintenant. C'est qui ça, on? C'est toi tout seul, ça. Je pense que t'es tout seul dans le groupe des on, là. Il y a toi tout seul, tu sais. Donc ça, c'est un peu agaçant. Lorsqu'il parle, on le voit également dans dès la bande-annonce, hein, le premier gros mensonge qu'il nous lance. Puis là, je ne veux pas être trop pointu, là, on ne donnera pas un cours d'histoire là, ce soir, mais quand il commence en disant les scientifiques croient que la plus vieille civilisation en Amérique a 13 200 ans. Ça, il nous lance ça dès la bande-annonce.
Okay.
Il le répète à satiété dans le premier épisode. C'est une demi... Disons que c'est pas tout à fait un mensonge, mais disons que c'est pas tout à fait de la vérité.
On va lui donner un demi-point.
On va lui donner. Donc, en réalité, ce qu'il nous parle ici, c'est que quand on parle, puis c'est ça, je vais pas rentrer parce que trop dans le détail, mais quand on parle de la civilisation nord-américaine, là, ben, en fait, des Amériques, on parle d'une grande migration qui serait survenue là, il y a à peu près 20 000 ans, parce que des gens auraient traversé par ce qu'on appelait à l'époque la Béringie. La Béringie, c'est ce corridor de glace qui reliait l'Amérique du Nord à l'Asie. Donc, ce pont de glace par le détroit de Béring
ouais.
qui, à l'époque, était glacé, pour ça, la Béringie. Donc, on estime que des gens sont passés par là il y a à peu près entre 12 000 ans et 20 000 ans, à peu près. Évidemment, ils ont pas fait sont pas rendus en Amérique du Sud du jour au lendemain. Hein. C'est une migration qui a été lente et longue.
Oui.
Et à cette époque également, le relief était différent. Donc, on croit que les premiers habitants ont dû s'installer très au nord, donc dans la région à peu près de l'Alaska, et ont dû rester là pendant des siècles, voire presque des millénaires ou un millénaire avant de commencer à descendre vers le sud. Donc, c'est une migration qui a été très, très lente. Et cette civilisation, de façon générale, on l'appelle la civilisation Clovis. Cette civilisation Clovis, pourquoi on la situe à 13 200 ans? Donc ça, c'est une vérité lorsque Graham Hancock dit ça. Mais là où il ment, c'est que dans l'univers de l'archéologie, il y a ce qu'on appelle le paléo-amérique. Et le paléo-amérique, ça évidemment, Graham Hancock ne le dit pas, mais ça, maudit que ça lui sert.
Okay.
Le paléo-amérique, ce sont des vestiges qui ont été trouvés. Parce que quand on parle de la civilisation Clovis, je vais rentrer dans ce détail-là pour que les gens saisissent bien. Là. Quand on parle de la civilisation Clovis, on parle à la fois d'une preuve d'occupation, mais également d'une preuve, fossile. C'est pour ça qu'on dit les traces que l'on a de la civilisation Clovis, la plus vieille que l'on a, c'est 13 200 ans, c'est parce qu'on a ces deux éléments-là. Preuve fossile, preuve d'occupation. Ce que Graham Hancock ne dit pas, c'est qu'un peu partout en Amérique du Nord, et en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il y a des endroits où on a trouvé des traces d'occupation qui sont beaucoup plus anciennes. Par exemple, on a des traces en Amérique centrale ou dans le sud des États-Unis qui sont de 16 000 ans. Donc, on est plus loin, là.
Wow,
on a des traces, par exemple, même au Brésil, hein, il y a une trace d'occupation que certains historiens font remonter jusqu'à 20 000 ans. Donc, on est loin, là, très, très loin. Mais pourquoi ce n'est pas retenu comme étant des marques de civilisation comme la civilisation Clovis, c'est parce qu'on n'a trouvé que des marques d'occupation. Donc, c'est insuffisant. L'archéologie là, ne fonctionne pas comme Graham Hancock voudrait qu'elle fonctionne. L'archéologie, avant d'établir une véritable occupation, elle a besoin à la fois des traces d'occupation, des traces fossiles. Les traces fossiles les plus anciennes que l'on a d'une occupation dans les Amériques, c'est 13 200 ans, c'est la civilisation Clovis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas de gens avant. C'est simplement qu'on n'a pas trouvé leurs ossements pour répondre aux critères de la science. Mais des traces d'occupation plus anciennes, on en a, puis on en a amplement. Et c'est justement sur cette carte-là que va jouer Graham Hancock. Tout le long du premier épisode, il nous montre des traces d'occupation qui sont plus anciennes que la civilisation Clovis. Il dit, voilà, je suis dans le sud des États-Unis, puis ici, il semble-t-il y avoir une trace d'occupation, puis des peintures rupestres, puis tout ça. Et ça semble, d'après les experts, ou souvent ils utilisent les experts sans les mentionner, on aimerait voir les études, mais quand même, ils disent, voilà, ça pourrait remonter jusqu'à 18 ou 19 000 ans. Or, hein, puis là, ils insistent là-dessus pour nous dire, or, les archéologues et les historiens nous disent que la plus vieille civilisation d'Amérique du Nord, c'est en Amérique, en fait, c'est 13 200 ans, alors qu'ici, on a des peintures pariétales qui datent de 16 000 ans, c'est que forcément, il y a eu cette super civilisation. C'est de la c'est, ouais. J'allais dire de la M. Là.
Ouais, c'est écoute, pas faux, là. Mais c'est l'une des, c'est pas la.
Ouais, ça, c'est d'un ridicule. Là. Et il joue là-dessus là, continuellement sur cette histoire-là. Puis là, il dit, ben voilà, on a trouvé des empreintes, même des empreintes de pas. Hein. À un moment donné, il se trouve à White Sands. Il montre des empreintes de pas qui sont dans des couches sédimentaires qui pourraient remonter à 17 ou 18 000 ans. Or, il est le premier à nous dire ah, des empreintes de pas de 18 000 ans, alors que la civilisation Clovis, il ne la nomme même pas d'ailleurs, la civilisation Clovis, il parle de la civilisation, mais il ne lui donne pas son nom. Son nom dans les livres d'histoire, c'est Clovis. Donc, il ne la nomme pas, mais bon, c'est vrai que ces traces retrouvées à White Sands, des traces de pas humains, sont antérieures de 4 ou 5 000 ans avant l'âge que l'on donne à la civilisation Clovis. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'accepte pas? Parce qu'on n'a pas de traces fossiles. On a des empreintes de pas, mais on n'a pas de traces fossiles. Donc, c'est les critères de la science. On ne changera pas la science pour faire plaire à Graham Hancock. Mais le fait qu'on ne fasse pas ça, que la science soit plus rigoureuse, dans le fond, comme la science est plus rigoureuse que Graham Hancock, ben c'est la porte ouverte à Graham Hancock de nous dire n'importe quelle ineptie. Donc, voilà grosso modo pour l'épisode numéro 1 où il a voulu mettre la table là-dessus et il nous a embobiné pendant une heure à raconter ça. Là. Bon. On passe à l'Amérique du Sud, dans l'épisode numéro 2, l'Amérique du Sud. Là, il nous amène en Amazonie et dans l'île de Pâques. Là, il y a la découverte de géoglyphes, donc des traces qui sont au sol. Et là, il y a des peintures pariétales également. Et là, il commence à nous faire des espèces d'associations boiteuses. Mais là, mon Dieu!
As-tu fait un drinking game?
Ah oui, oui, écoute. Fois. Là, il commence à nous dire, en Amazonie, par exemple, il y a, dans l'histoire de l'humanité, moi, je pense que je vais m'en aller prof d'histoire à un moment donné. Je vais prendre un petit break. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a ce qu'on appelle, dans toutes les civilisations, il y a le mythe fondateur.
Oui.
Toutes les civilisations ont un mythe fondateur, quel qu'il soit. Donc, on a les civilisations, même les plus primitives, s'imaginent un passé fantastique pour justifier qu'ils sont là. Et dans n'importe quelle civilisation...
C'est réconfortant.
Oui, voilà. Puis en même temps, bien, ça nous permet de répondre à une question d'où je viens.
Oui.
Bien, d'où je viens du mythe fondateur. Que Dieu ait créé Adam et Ève, que je vienne de l'union de deux dieux grecs au sommet de l'Olympe, c'est pas grave, mais il y a un mythe fondateur.
Oui.
Donc, toutes les civilisations ont des mythes fondateurs. Et toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, elles situent les dieux dans les cieux et le monde des ténèbres ou les enfers, peu importe le nom qu'on lui donne, dans la terre. Pourquoi dans la terre? Bien, parce que quand on meurt, on retourne à la terre. T'sais, bon. Et le divin est souvent associé aux étoiles et les étoiles sont dans le ciel. Parce que toutes les civilisations, évidemment, voyaient dans la voûte céleste des références à un univers divin. Bon, c'était vrai dans l'Égypte antique, c'était vrai à Sumer, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Quand tu parles, on dit « Ah, bim, mon Dieu », ben tu lèves les yeux au ciel. Tu sais, ouais. Tu comprends-tu? C'est pratiquement inscrit dans nos gènes. Donc, toutes les civilisations ont des mythes fondateurs. Et les mythes fondateurs sont souvent reliés à des événements du quotidien. Et quel est l'événement commun au quotidien de toutes les civilisations? Ben, c'est les maladies. C'est les inondations, c'est les sécheresses, tu comprends ça? Ce sont des événements qui ont marqué toutes les civilisations et qui ont été, dans bien des civilisations, ça a été des moments charnières dans l'évolution de leur société. Donc, tous les mythes fondateurs sont souvent associés à ça. Hein? Donc, il y a eu une grande inondation, puis là, tout d'un coup, les dieux arrivent, puis les dieux vont séparer les eaux de la terre, puis peu importe. Là. Mais on retrouve des éléments assez communs dans tous les mythes fondateurs. C'est le propre de l'être humain, ça. Et là, tout d'un coup, notre Graham Hancock se retrouve en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et là, il commence à être en Amazonie et il va même aller dans l'île de Pâques. Et là, il commence à dire, vous voyez, dans le mythe, dans l'île de Pâques, par exemple, il y a un dieu qui arrive. Puis là, ce dieu-là, il arrive comme sur un navire, un bateau de la mer. Mais où c'est une île. Les insulaires n'imagineront pas un monde autre qu'une île. Ils vivent sur une île. Il faut bien que la personne arrive avec un bateau, tu sais. Donc, et là, il nous raconte ça. Et là, tout d'un coup, il nous sort, il dit, regardez dans telle autre région du monde, un autre mythe fondateur où les gens, ça peut être en Amérique, en Amérique du Nord, où un dieu, par exemple, arrive sur un grand navire. Et là, il fait des liens comme s'il y avait une origine commune. Mais ça, là, les anthropologues doivent se bidonner quand ils entendent un truc comme ça. C'est de la foutaise, là. Tous les mythes, qui sont les mythes fondateurs, reprennent grosso modo les mêmes éléments. Ça ne veut pas dire qu'il y a une connexion entre eux. Même au contraire, il n'y en a pas de connexion entre eux. On n'en a jamais trouvé. Sur le plan archéologique, on n'en a pas. Ensuite, il nous dit, il prend des choses qui sont vraies, mais il les assaisonne à la sauce Graham Hancock. Et là... Là, tu veux-tu prendre une pause, Camille? Écoute, et moi, je me regarde et moi, je suis parti.
Je te laisserai finir. Il nous reste encore que... Écoute, honnêtement, il nous reste genre 12 minutes.
OK.
Fait que je te laisse finir cet épisode-là, puis après ça, je pense qu'on pourrait faire un autre sujet après. Mais je te laisse aller. Je me dis, on va faire les épisodes, puis avoir un bon résumé pour éviter que les auditeurs perdent du temps avec cette série-là.
Donc après ça, ils trouvent des traces ADN, par exemple. Bon, on trouve des traces ADN entre les insulaires qui habitent l'île de Pâques, par exemple, qu'on appelle les Rapa Nui. Puis là, ils disent, ben voilà, on a trouvé de l'ADN qui est commun aux Rapa Nui avec l'Amérique du Sud. Donc c'est forcément qu'ils ont un ancêtre commun. Mais non. Ces gens-là, il est possible. On sait que toutes les îles de la Polynésie, incluant l'île de Pâques, a été peuplée en leur temps par des gens, par des insulaires qui ont passé d'une île à une autre et parfois sur de longs voyages en mer. Ils ont pu rester en mer pendant plus d'un mois avant de finalement échouer soit à l'île de Pâques ou en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi on retrouve chez certaines sociétés ou tribus de la Polynésie, on retrouve des structures, des constructions qui sont assez qui se ressemblent les unes des autres, comme certaines statues au niveau de l'architecture. Tout ça, ça ne prouve pas qu'il y a une super civilisation qui a disparu. Tous ces éléments-là sont parfaitement expliqués ou explicables par l'archéologie ou l'anthropologie. Puis les quelques cas où... Parce que dans le cas de Graham Hancock, et je pense, parce que comme je vois le temps, j'aurais pu t'en parler pendant 2 heures. J'aurais même pu t'en parler plus longtemps que la série a duré, mais ça m'a tellement choqué de voir ça. En fait, l'élément que Graham Hancock présente, c'est que dans l'histoire, dans l'archéologie, on a, dans la plupart des cas, on a des explications qui permettent de justifier pourquoi ceci est comme ça. T'sais. Et quand on n'a pas l'explication, il n'y a pas place à ce qu'on appelle la rupture. C'est-à-dire que le fait que je n'ai pas la conviction que les gens... Je te prends un exemple du Mésoamérique.
Oui.
Mettons, là, tu as deux grandes cités, là, au Yucatan. Bon, allons-y, là. Tu as la cité de Tikal, par exemple, puis tu as la cité de Chichen Itza.
Oui.
Bon, là, on pourrait se dire, tu sais, bon, si on pose aux historiens, est-ce que les gens, quand on a abandonné Chichen Itza, est-ce que ces gens-là, les gens de Chichen Itza, venaient ou sont retournés à Tikal, ou est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Les historiens vont dire, on ne le sait pas. Dans le fond, on sait que les deux, c'est deux constructions mayas, les deux sont de l'ancien empire, on peut appeler aussi l'empire classique.
Okay.
Mais est-ce qu'il y avait un lien, parce que chez les Mayas, c'était des cités-États. Hein? Chaque cité était comme un État, un peu comme comparons les États-Unis, comme si chaque État était une cité. Bien, chez les Mayas, c'est un peu comme ça. Tu avais chaque cité-État avec des guerres, etc.
Okay.
Donc, les historiens pourraient dire, on ne le sait pas. Mais si on ne le sait pas, ça n'entraîne pas la rupture. C'est-à-dire que pour arriver à cette réponse-là, on n'a pas la réponse de manière officielle, mais on peut spéculer en restant dans la norme du vraisemblable. Il est possible que certaines personnes venues de Tikal aient migré vers Chichen Itza ou vice-versa. On n'a simplement pas la preuve, mais c'est possible. Ce que préconise Graham Hancock et les tenants des hypothèses des anciens astronautes, c'est ce qu'on appelle la vision de la rupture. C'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse, donc c'est sûrement des extraterrestres venus d'une autre planète. Tu comprends-tu ce que je veux dire?
C'est à plus quel grand point on que est loin? Nous, c'est ça.
Oui, là, à un moment donné, tu sais, je veux dire, mais est-ce que le dessin qui était fait sur la feuille de papier a été fait au stylo ou au crayon feutre? Je le sais pas. Ah, ben, si tu le sais pas, c'est que forcément, ça a dû être fait au laser qui venait d'une autre planète. Non, là, on est en rupture. Là, ouais. On est en rupture de bon sens.
C'est comme orgueilleux de l'intelligence humaine. Hein. Si je ne suis pas capable de le trouver, c'est parce que je suis trop cave, puis c'est ouais. quelqu'un de plus intelligent que moi, puis ça veut voilà. dire que ce n'est pas l'humain.
Alors que les historiens, quand ils refusent de se prononcer, c'est qu'on peut émettre des hypothèses, mais ces hypothèses-là demeurent toujours dans l'univers de ce que l'on sait, du vraisemblable. Alors que Graham Hancock, dès qu'il est confronté à une énigme ou quelque chose qui ne fait pas son affaire, ben, il propose cette hypothèse de la rupture où là, on fait intervenir une super civilisation. Puis là, ben écoute, il compare les pyramides d'Égypte. Il y a une phrase à un moment donné qui me fait sursauter. Il dit « Je n'ai jamais vu dans le monde des pyramides qui ne sont pas associées à la mort. » Ben sacrément, t'as pas visité, t'as pas dû voyager bien ben longtemps. Parce que à part les pyramides d'Égypte qui étaient fondamentalement des tombeaux,
ouais.
la plupart des autres pyramides dans le monde ne sont pas des tombeaux. Hein? À quelques, je pense par exemple à la pyramide des inscriptions à Palenque, on a trouvé la tombe de Pakal à l'intérieur. Mais le temple des inscriptions n'est pas un tombeau. Il n'avait pas été conçu au départ pour être un tombeau. Donc, mon petit Graham, visite un peu plus ou arrête de nous compter des bobards. Mais les seules constructions pyramidales qui ont été construites fondamentalement pour être des tombes, c'est en Égypte où on en a retrouvé aussi un peu dans le nord de l'Afrique. Hein. D'autres sociétés ont développé des toutes petites pyramides, je pense notamment dans la région de la Syrie, tout ça, des petites pyramides qui étaient des tombeaux. Mais là, on parle de pyramides qui font 3 ou 4 mètres de haut. Là. C'est tout petit. Mais à part les grandes pyramides d'Égypte, puis des pyramides en Égypte, on pense tout le temps à 3, mais il y a à peu près 80 pyramides en Égypte de différentes formes, de différentes dimensions. Et, on pense par exemple à la pyramide de Djoser, c'est une pyramide à degrés. Ensuite, les pyramides du plateau de Gizeh, c'est des pyramides lisses. Mais ça, c'était vraiment des tombes. Mais les pyramides, ben, même si on a trouvé, par exemple, sous la grande pyramide du Soleil à Teotihuacan, même si on a trouvé des ossements en dessous, le temple n'a pas été fait pour ça. Tu comprends, on a enterré des gens, des nobles, sous le temple, mais le temple n'était pas construit pour ça. Donc ça, c'est un mensonge épouvantable de nous dire ça, que toutes les pyramides, puis d'ailleurs, en Amérique centrale, dans le Mésoamérique, d'ailleurs, on ne parle pas de pyramides, mais on parle plutôt de temples à degrés, ouais. hein, c'est surtout ça, alors qu'en Égypte, là, c'est vraiment des pyramides. Donc, c'est toujours des espèces de raccourcis pour essayer de trouver des liens, mais qui sont tout à fait invraisemblables, esthétiques, qui ne servent finalement qu'à alimenter les hypothèses un peu biscornues de ce Graham Hancock. Donc voilà, je te laisse aller à la pause.
Et il y a y croire, parce que je sais que ça ne fait pas l'unanimité sur le texto actuellement, mais il y a y croire, mais versus la vérité. Tu sais, on peut garder une porte ouverte, mais actuellement, ces deux thématiques-là, Christian, se ressemblent. Les ovnis et les complots historiques ouais. sur les origines ouais, mais, du monde. Mais, on n'a pas la réponse. On n'a pas de preuve là que ça existe.
C'est pas tout à fait vrai non plus. Dans bien des... Il y a 80% de ce que nous sort Graham Hancock, au contraire, pour lesquels on a des explications.
On peut déboulonner, ouais.
On les a, les explications. C'est que lui, il ne nous les donne pas, mais on les a, ces explications-là. Donc, il y a une différence entre dire « j'ai un mystère » et dire « j'ai une explication, mais moi, Graham Hancock, je n'y crois pas.
Ouais. »
Là, libre à toi de ne pas y croire, mon petit homme, mais on l'a quand même, l'explication, là.
C'est vrai.
Fait que s'il y a un monde entre les deux, c'est exactement ce qu'il a fait là. Je te dis, là, facilement, 80 à 90% des soi-disant énigmes évoquées par Graham Hancock ont été clairement expliquées et exposées par des historiens et des archéologues. Il invente des mystères pour donner une prise à son hypothèse tout à fait fantaisiste de la super-civilisation.
Pour le visionnement de son documentaire, au final.
Oui, absolument.
On s'arrête quelques minutes, Christian. Je te laisse décider pendant la pause le sujet que tu vas nous faire au retour,
okay,
ici même à Radio X.
Radio X-Files. Here we go. Execute program. Avec Christian Page et Camille. Radio X.
De retour à l'émission, la dernière de l'année 2024, Christian, tu voulais nous parler du parachute de D.B. Cooper.
Oui, D.B. Cooper, d'ailleurs, dont on se fera éventuellement un suspect X.
Oh oui.
Parce que c'est une énigme policière, judiciaire, criminelle, qui alimente énormément la controverse et des passions. Hein. Il y a, aux États-Unis, il y a des groupes qui se passionnent pour l'énigme de D.B. Cooper. Pour rappeler un peu aux auditeurs, en novembre 1971, il y a un type qui a détourné un avion. Il s'appelait Dan Cooper, c'est le nom qu'il avait donné au bureau d'embarquement. Bon, si on l'appelle D.B. Cooper, c'est parce qu'éventuellement, il y a eu un cafouillage, une communication, puis on l'a appelé D.B. Cooper. Mais c'était vraiment inscrit sous le nom de Dan Cooper. C'est un avion qui faisait la liaison entre Portland en Oregon vers Seattle. Et donc, il monte à bord, et une fois à bord, c'est assez amusant, il donne un petit papier à l'hôtesse. Là, l'hôtesse pense qu'il a donné son numéro de téléphone, tu sais, le genre, le gars qui veut accrouser. Puis il fait signe, non, lis le message. Et là, elle le lit, il ouvre un petit peu sa mallette. Il semble avoir des objets explosifs dans la mallette. Et là, il y a détournement d'avion. En fait, il demande à ce que l'avion aille à Seattle. Il demande en échange 200 000 $, 4 parachutes. Et l'avion reprend son vol. Il demande au pilote de se diriger vers le Mexique. Le pilote lui fait savoir qu'on n'a pas assez de carburant pour aller au Mexique. Cooper accepte qu'on détourne l'avion vers Reno, au Nevada. Mais de toute façon, pour lui, ça n'a pas d'importance parce que quelque part, là, on est au-dessus de l'État de Washington. L'appareil sur lequel il se trouve, c'est un Boeing 727, que la particularité à l'arrière de l'avion, on peut ouvrir une trappe avec un escalier. On voit ça dans les vieux films. Parfois, ouais. Quand les gens débarquent sur le tarmac, là, à l'arrière de l'avion, il y a une porte avec un escalier, puis on peut descendre. Donc, il envoie tous les pilotes et les hôtesses sont gardés dans le poste de pilotage. Et là, visiblement, il sait ce qu'il fait. Là. Il dit aux pilotes, vous allez voler dans telle direction, vous allez voler à telle vitesse, vous allez voler à 10 000 pieds d'altitude. Il donne ses indications. Et là, à un moment donné, le pilote voit une lumière qui s'allume sur son tableau de bord, comme de quoi qu'on a ouvert la porte arrière, et Cooper va sauter dans le vide. On ne retrouvera jamais D.B. Cooper. Quelques années après, en 1980, donc on est quand même 9 ans après ce détournement, ce hijacking, hein, ce piratage de l'air, on va retrouver une somme d'à peu près 5200 $ de mémoire qui est enterrée dans le sable sur une plage près de la Columbia River. On est près de Vancouver, mais Vancouver dans l'État de Washington, pas Vancouver en Colombie-Britannique. Mm. Et c'est le seul argent qu'on va récupérer de la rançon. Donc, on va retrouver cet argent en partie caché dans le sable. On ne retrouvera pas le reste de la rançon et les billets de banque qui avaient été marqués ne réapparaîtront jamais. Et D.B. Cooper, on ne le reverra jamais non plus. Donc, qui était ce fameux D.B. Cooper? Pourquoi l'argent a-t-il disparu? Bon, est-ce qu'il est mort en faisant son saut ou quoi que ce soit? On ne le sait pas. Le FBI va enquêter là-dessus. En 2016, ils vont fermer officiellement l'enquête sur D.B. Cooper après avoir passé au crible quelque chose comme 800 suspects. Un des suspects qui avait été retenu, puis là j'arrive à notre histoire du parachute,
oui.
Un des suspects qui était très possible, hein, un bon suspect. Même le FBI le considérait comme un bon suspect. On est pratiquement un an et demi après le saut de Dan Cooper. On est toujours à la recherche de Dan Cooper. Il y a un type qui s'appelle Richard McCoy. Richard McCoy va faire exactement la même chose. Sous le pseudonyme de James Johnson, il va détourner un vol de Newark dans l'État de New Jersey jusqu'à Los Angeles. Et là, il va demander une rançon de 500 000 $ en disant qu'il a une bombe dans une mallette. Et il va faire exactement comme Cooper, lorsque l'argent va lui être remise, il va laisser partir les passagers et il va demander à ce que l'avion se remette en vol et il va sauter en parachute. Donc, il va ouvrir la porte de l'appareil. Puis,
c'est assez similaire.
C'est vraiment un copie-coller du coup de Dan Cooper. Mais dans le cas de McCoy, malheureusement, des empreintes digitales, également un délateur, va révéler son identité. Il va être arrêté 2 jours après le vol. Il est arrêté. Il va être condamné éventuellement à 45 ans de prison. Quelques mois après, il va s'évader avec des co-détenus du pénitencier. Les policiers vont le retrouver à Virginia Beach. Il va s'en suivre un échange de coups de feu entre lui, les co-détenus qui s'étaient évadés avec lui, et les policiers. Et McCoy va mourir, il va être abattu par les policiers. Mais son crime, son détournement, des gens diront, il s'est inspiré de D.B. Cooper. Mais tous n'ont pas la même version. Est-ce qu'il s'est inspiré de D.B. Cooper ou est-il D.B. Cooper? Tu comprends?
Oui.
Avoir fait un coup semblable. Mais s'il était D.B. Cooper, pourquoi un an et demi après avoir détourné 200 000 $, pourquoi retenter le coup pour voler 500 000 $ alors que les 200 000 $ ne sont jamais réapparus? Est-ce que en sautant la première fois, on peut imaginer ça, en sautant la première fois, est-ce qu'il aurait perdu une partie de la rançon? T'sais, on peut imaginer tous les scénarios. Là. Mais là où j'arrive avec mon histoire de parachute, des gens, comme je l'ai mentionné, il y a des gens qui se passionnent pour l'histoire de D.B. Cooper, et un d'entre eux s'appelle Dan Grider. Et Dan Grider, lui, a fait de ce Richard McCoy, ce copier-coller de Dan Cooper, il en a fait son principal suspect. Donc, il a écrit beaucoup sur lui, il défend sa thèse que McCoy était Dan Cooper. Et en septembre 2022, alors qu'il rencontrait la famille, parce que bon, si McCoy est mort, il a des enfants, et il a un fils d'ailleurs qui s'appelle Richard McCoy, troisième du nom.
OK.
Et alors qu'il était chez eux, on l'a amené dans un hangar qui était derrière la maison où son père gardait des effets. Son père était un ancien parachutiste qui avait été dans l'armée, qui avait servi au Vietnam, tout ça. Mmh. Et en fouillant dans les effets... Oh oui, c'est un vrai parachutiste. Okay. Il y a tous les éléments du bon profil.
C'est ça, tabarouette, le puzzle, ben oui.
Et on fouille, en fouillant dans ces objets, on trouve un parachute. Et là, ben écoute, l'affaire aurait pu en rester là, mais non, le Dan Grider, le fameux passionné de l'affaire Cooper, a présenté des images du parachute. Dans les images, on le voit trouver le parachute, puis il regarde. Puis effectivement, c'est un parachute qui date des années 70 et qui est à peu près du même type que celui que Cooper avait utilisé quand il a sauté de l'avion. Hein, quand il avait demandé qu'on lui amène des parachutes, ben ça ressemblait pas mal à ce parachute-là. Donc, il laisse supposer qu'il pourrait s'agir d'un des parachutes, du parachute utilisé par Dan Cooper. Donc, l'affaire aurait pu en rester là, comme je l'ai mentionné, mais le fait qu'il a publicisé la chose sur YouTube, il aura fallu longtemps à la réaction, mais quand même, au cours des derniers jours, le FBI a pris contact avec lui. Les derniers jours, les dernières semaines, le FBI ont pris contact avec lui. Ils ont saisi le parachute. Ils ont également demandé à Richard McCoy, troisième du nom, fils du pirate de l'air. On lui a demandé
ADN.
De prendre son ADN, tout ça. Et là, des gens se sont dit, mais si le FBI a fermé l'enquête en 2016, pourquoi s'intéresser à nouveau à ça? Et on a posé la question au FBI. Ils ont répondu il y a quelques jours en disant, le fait qu'ils confirment qu'ils ont pris de l'ADN, ils confirment également qu'ils ont pris le parachute, mais ils soulignent que le fait d'avoir saisi ces objets-là, puis ils les ont saisis, mais volontairement, là, c'est-à-dire que ceux qui les avaient les ont donnés. C'est pas une saisie là, en tant de saisie policière, comme on l'imagine. Là. C'est un prêt, disons. Et le FBI dit, parce que même si le dossier est fermé depuis 2016, comme n'importe qui, on aimerait bien savoir qui était D.B. Cooper. On aimerait mettre un terme à cette énigme policière,
oui.
Même si pour nous, l'enquête est fermée. Donc, le FBI a décidé simplement d'ajouter son effort à ceux de Dan Grider pour essayer de voir si son suspect, là, Richard McCoy, qui est toujours demeuré en bonne place sur la liste du FBI, pourrait être D.B. Cooper. Mais déjà au moment où on se parle, d'autres passionnés ont visionné ces images-là et ont déjà soumis une contestation en disant « La fermeture de métal n'est pas exactement comme celle qu'on retrouvait sur le parachute de D.B. Cooper. »
OK, aussi pointu.
Oui, c'est très pointu. Là, on entre dans le très, très pointu. Mais que c'est fascinant de voir à quel point cette histoire-là passionne autant de gens. Et quel coup d'éclat, ce D.B. Cooper, en sautant de son appareil là, ce jour-là, là, en 1971, là, quand il a sauté en bas de son 727, il est entré dans l'histoire. Je ne sais pas s'il a réussi à récupérer son argent, mais c'est sûr qu'il a entré dans l'histoire en faisant un coup comme celui-là.
Assurément. Peut-être que la pause des fêtes ou d'ici à ce qu'on fasse l'épisode sur D.B. Cooper dans Suspect X, on aura peut-être la réponse à cette question-là
peut-être,
en plus.
Mais c'est une belle énigme.
Vraiment, et c'est super intéressant. Christian, je te souhaite de joyeuses fêtes.
Toi aussi.
C'était le dernier épisode de Radio X-Files avant le congé. On va être de retour en janvier et on a un petit dernier Suspect X pour vous lundi prochain à 22h. Soyez-y. Je vous souhaite un bon week-end et je remercie encore une fois les auditeurs de nous choisir semaine après semaine pour les deux émissions qu'on fait ensemble. J'ai très hâte déjà de te retrouver après le temps des fêtes, mais repose-toi d'ici là.
Moi aussi. Alors, bon week-end à tous et bon temps des fêtes.
Yes, à vous aussi. Bye-bye.